Bonjour Béatrice, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous donner un petit peu les éléments à la fois de ta recherche et puis nous dire un petit peu ce que tu as fait et puis nous voilà, te présenter personnellement.
Alors je suis Béatrice Verquin-Savario, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Rouen Normandie, chercheuse au laboratoire CIRNEF, ça veut dire le Centre International de Recherche en Éducation et Formation. Et je suis sur un profil formation à distance, technologie de l'éducation, comme on dit aujourd'hui, et formation des adultes. Alors, comment je suis arrivée à travailler sur la FOAD, puisque c'est le thème de notre sujet aujourd'hui? Avant d'être enseignante-chercheuse, j'ai d'abord été recrutée au Centre National d'Enseignement à Distance, et j'ai travaillé 3 ans au CNED, où j'ai été en immersion sur ces questions de formation à distance sans véritablement connaître le sujet auparavant. Voilà. Et puis de ce travail professionnel, finalement, j'ai fait le lien avec mes travaux de recherche antérieurs puisque j'ai fait ma thèse sur les Français à l'étranger. Et donc c'est la question de la distance finalement qui constitue le cœur de mes travaux de recherche.
Ok, très bien, je te remercie. Est-ce que tu as parlé de FOAD, tu as parlé de EAD. Est-ce que tu pourrais nous définir l'EAD et puis nous définir la FOAD, nous dire s'il y a des convergences et des différences entre les deux types de dispositifs?
Oui. Alors l'enseignement à distance, hein, EAD, c'est pour moi quelque chose qui est déjà un peu de l'histoire ancienne. On fait le lien entre l'EAD et ce qu'on appelle les cours par correspondance. Alors les cours par correspondance, ça a été créé avec l'invention du timbre-poste. Donc on a l'habitude de dire que c'est autour de 1840. Ça a fonctionné pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, hein, parce qu'on a l'impression que ça s'est arrêté par exemple au 21e siècle. Or pas du tout, puisqu'on a continué à faire de l'EAD et on continue un peu à faire de l'EAD jusqu'aux années 2000. Voilà, c'est vraiment l'arrivée finalement d'Internet qui va faire bouger les choses et qui va conduire peu à peu à ce qu'on parle aujourd'hui de FOAD. Alors, FOAD, c'est formation ouverte et ou à distance. Alors, le et ou est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des cours par correspondance qui étaient essentiellement basés sur des cours papier, avec le travail à la maison, hein, l'un des premiers travaux de recherche sur ce sujet, s'intitulait « Le savoir à domicile ». Voilà, donc on est vraiment sur l'envoi de courrier postaux. Avec la FOAD, on va être plutôt basé sur des dispositifs avec Internet. Et le O, le ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, normalement, il n'y a pas forcément de code d'accès. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un monde où tout est ouvert. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'open, voilà. Et donc, cette ouverture va faire qu'on va utiliser Internet, parfois en partant du présentiel pour introduire du numérique, mais quelquefois et de plus en plus, du numérique avec quelques séquences de présentiel. Présentiel, distanciel, deux notions qui nous amènent à l'hybridation. On est à peu près aujourd'hui sur 90%, je pense, des dispositifs qui sont hybridés. Voilà. Et puis l'effet confinement hein, qu'on vient de traverser, je pense, a encore fait bouger la donne. C'est-à-dire que le numérique est en train de devenir une forme presque standardisée ou en tout cas normalisée d'enseignement. La question, c'est comment on introduit le numérique et comment on forme à la fois les enseignants et les formateurs en numérique et comment on prépare aussi les jeunes à apprendre avec le numérique.
Je te remercie. Tu nous as décrit un petit peu quelques évolutions. Est-ce que de ta recherche, tu en as vu d'autres, des évolutions sur l'EAD ou la FOAD? Tu as parlé d'hybridation, mais j'imagine qu'il y a d'autres sujets, la commodalité ou encore d'autres. Quelles évolutions? Et si jamais tu n'as plus rien à dire, concrètement, quel est le futur de l'EAD ou de l'enseignement à distance?
Alors, ta question, elle est complexe parce que c'est quelque chose qui bouge et ça bouge tous les jours, j'ai presque envie de dire. Tous les jours, on crée des logiciels, on crée des éléments qui vont favoriser justement la numérisation, on va dire, des contenus de formation. Il y a eu le phénomène MOOC, sur lequel on ne va pas revenir parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a identifié autour de 2012 les MOOC, Massive Open Online Courses. On retrouve le open, hein, la notion d'ouverture. Et comme étant le phénomène qui allait tout changer. Bon, aujourd'hui, on est en train de revenir sur le MOOC comme étant la révolution, mais on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont parfois identifiés comme l'innovation, qui ne sont pas finalement tant innovants que ça. Moi, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est de penser les formats dans lesquels vont avoir lieu ces enseignements. Et les formats, je pense au téléphone, à l'usage du smartphone. Donc, par exemple, un des éléments vraiment très importants aujourd'hui, c'est que même si on met des contenus sur des plateformes, le plus important, ça va être de penser l'usage que va en faire la personne à qui c'est destiné, qu'on va appeler l'apprenant. Et cet apprenant qui va être quelqu'un qui, de plus en plus, va suivre ses cours avec son téléphone. Alors, donc, comment on met en place ce qui va bien? Alors, c'est vrai qu'il y a un élément qui a le vent en poupe, on va dire, et on en est le témoin aujourd'hui avec l'enregistrement de cette vidéo, c'est l'enseignement avec des vidéos. Les MOOC, par exemple, sont essentiellement basés sur des vidéos de 3 minutes. Ou un peu plus, bon. Mais on est de plus en plus dans des interventions à partir de vidéos, mais aussi des activités. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est que dans l'EAD, c'est l'enseignement, donc on reste quand même dans une forme très transmissive de l'apprentissage, tandis que dans la FOAD, on est dans la formation, et avec la formation, on est dans la notion d'apprentissage. Alors la notion d'apprentissage, c'est quoi ? L'apprenant est vraiment le centre du dispositif de formation, et en étant le centre du dispositif de formation, c'est lui qui va avoir pour rôle, dans la logique des capacités que je travaille, c'est la conversion des ressources. Pour le dire simplement, à quoi ça sert de mettre des quantités de fichiers ou d'activités ou de documents en ligne s'ils ne sont pas travaillés? Donc, cette notion d'apprentissage va renvoyer à l'apprenant l'idée que tout ce qu'on va mettre à sa disposition, il faut qu'il en fasse quelque chose. Donc, quand on met des activités en ligne, eh bien, il faut s'assurer que ces activités aient été effectuées. Mais non seulement ça, il faut bien sûr qu'elles soient corrigées. Alors, on a de plus en plus des corrections automatiques. Hein. Je prends l'exemple des quiz. On va avoir un feedback des quiz plus ou moins développé. Mais c'est une manière de vraiment rentrer dans cette logique de l'apprentissage. Donc, trois formes de médiatisation possibles. Qu'est-ce que c'est que la médiatisation? C'est la mise en média. Alors, la première forme, c'est la médiatisation des contenus, et on va pouvoir interagir avec les contenus. La médiatisation de la relation pédagogique, donc on va aussi pouvoir interroger ou interagir avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, la plupart du temps des tuteurs. Et on va pouvoir interagir, bien sûr, avec ses pairs. Alors les pairs, eux aussi, je trouve que dans l'avenir, c'est sans doute un des éléments qui a le plus d'importance. On va être dans la FOAD, de plus en plus dans du travail collaboratif. Donc mettre en apprentissage les apprenants et si possible en équipe. Alors ça c'est fondamental, puisque en étant en collaboratif, ben, ils vont garder leur motivation, ils vont s'entraider, et puis surtout, souvent, la difficulté en FOAD, c'est le manque de temps. Donc, travailler en équipe, c'est gagner du temps.
Ok. Je vois là déjà quelques conseils qu'on pourrait donner à ces différents acteurs. Si on les prenait un par un, quels conseils tu pourrais donner à des concepteurs de futurs dispositifs de formation ouverte à distance? Ou auprès des enseignants, quels conseils tu donnerais? Est-ce qu'un enseignement est à penser, un enseignement à distance est à penser différemment d'un enseignement en présentiel, par exemple?
Alors ça, c'est fondamental. Hein. Je pense que tous ceux qui se sont lancés un jour dans la formation à distance, peut-être ont commis cette erreur, c'est-à-dire se dire, je prends ce que je fais en présentiel et puis je vais le transposer en le mettant en ligne. Ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qui fonctionne en présentiel ne fonctionne pas forcément à distance. C'est-à-dire qu'il faut complètement repenser tout le séquençage de son cours ou de sa formation pour se mettre à la place de l'apprenant qui, en général, au moins en apparence, se retrouve tout seul devant son écran. Donc, comment je vais l'engager dans sa formation? Comment je vais l'aider à interagir, comme je viens de le décrire, avec l'équipe pédagogique, avec ses pairs et avec les contenus? Ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans une logique d'activité qu'une logique de transmission. Voilà, mettre en action l'apprenant, c'est un élément qui est essentiel. Et donc évidemment, ça change complètement la logique de l'enseignement, puisque l'enseignant ou le formateur n'est plus le centre du dispositif de formation, mais c'est bien l'apprenant, et aider l'apprenant à devenir acteur de ses apprentissages.
Ok. Et auprès par exemple des tuteurs, est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est qu'un tuteur, le rôle d'un tuteur, et quels conseils tu lui donnerais dans ces dispositifs?
Alors, le tutorat, c'est une question essentielle de la réussite dans la formation à distance. À l'origine, le tuteur, on le sait tous, c'est ce qui sert à une plante pour bien grandir. Voilà, donc c'est quelque chose d'essentiel puisqu'on va pouvoir se reposer, façon de parler, parce que le tuteur ne fait pas le travail à la place de l'apprenant, mais en tout cas, apprendre grâce au dialogue qu'on va avoir avec le tuteur. Alors, ce tuteur, moi j'aime bien. Comme me l'ont indiqué certains étudiants, sans doute toi aussi tu es au courant, puisqu'on a quand même pas mal travaillé ensemble, la question du web cocooning. Voilà. Moi j'aime bien cette idée de web cocooning, c'est-à-dire c'est celui qui va rendre agréable la formation. La formation, ce n'est pas toujours facile, puisque quand on fait des formations, souvent à distance, c'est qu'on est en situation professionnelle, très fréquemment. Donc on peut être un peu stressé entre son activité professionnelle, ses enseignements qu'on doit suivre, voire d'autres activités personnelles ou associatives, etc. Du coup, c'est très important ce tuteur, parce qu'il va nous aider à nous organiser, à comprendre ce qu'on attend de nous, et puis sortir du sentiment de solitude, qui pourrait être la plus grande difficulté. En tout cas, très souvent, dans les travaux scientifiques, c'est un des éléments qui est ressorti comme étant une des limites de la formation à distance, ce sentiment de solitude. Alors, il faut les former, les tuteurs. Alors, ça c'est un élément important. Le tuteur, c'est pas n'importe qui. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà suivi lui-même une formation à distance, donc il sait dans quelle situation va se retrouver l'apprenant. C'est quelqu'un qui est très à l'aise, évidemment, avec les technologies, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la médiatisation. Il n'y a pas que les contenus qui sont médiatisés, toute la relation est médiatisée. Alors, le grand classique des cours par correspondance, pour revenir à l'EAD, c'était l'échange des devoirs, et le tuteur, c'était l'enseignant à ce moment-là, qui faisait un feedback sur les devoirs reçus pour aider, non pas simplement évaluer, mais aider l'apprenant à progresser. Dans la formation à distance, le tuteur, c'est l'orchestre. Il peut aider aussi bien sur la partie technique que la partie psychologique que sur les contenus, mais il ne se substitue pas à l'enseignant. Par contre, il dialogue en permanence avec l'équipe pédagogique et lorsqu'il y a des questions, il fait le lien. Quoi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un vraiment très important pour le dispositif. Problème, le tutorat, ça coûte cher. Donc on a plutôt tendance aujourd'hui, et c'est bien dommage, à réduire les heures de tutorat. Parce que tout ce qui est humanisation des dispositifs de formation, ça assure la réussite des apprenants et en même temps, ça pèse dans le budget.
Ok. Tu avais une formule que, quand on travaillait ensemble, que tu utilisais beaucoup, c'était la notion de distance en présence et la présence à distance. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu, nous en dire un petit peu plus, l'importance finalement de la proximité? Tu en as déjà dit quelques mots, mais voilà. Est-ce que tu peux développer ce sentiment de distance et de présence?
Alors, qu'est-ce que la présence aujourd'hui avec Internet? C'est une grosse question. On l'a tous vécu, encore une fois, je pense, au moment du confinement. Est-ce qu'on était ensemble ou séparés? Alors, bien sûr qu'on était séparés, puisque chacun chez soi, et en même temps tous ensemble. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ce soit les plateformes de formation, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le forum, quand il y a un forum de discussion ouvert dans le cadre de la formation, on peut très vite être mis en relation et partout sur la planète. Et donc, la présence, c'est essentiellement, au départ, basé sur le dialogue. Voilà. Donc, il faut assurer la continuité du dialogue. Et là, je vais faire référence à une théorie qui est la distance transactionnelle de Moore. Moore, il a beaucoup travaillé sur cette notion de dialogue, en disant qu'il peut y avoir des interactions négatives. Alors, je voudrais revenir sur cette notion. C'est quoi une interaction négative? Les interactions négatives, c'est le bruit. Voilà. Alors, tout ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec l'information. Donc ça, c'est un élément qu'il faut éviter dans les dispositifs de formation. Mais la plupart du temps, je prends l'exemple encore une fois du forum de discussion, les interactions sont positives. C'est-à-dire qu'on sait que quand un apprenant ose poser une question, il y en a peut-être 50 qui se posent la même. Voilà, donc la présence, c'est essentiellement le dialogue, mais c'est aussi aujourd'hui toutes les formes de visibilité de la présence. Alors, en sciences de l'éducation, on parle de la question des traces, les traces d'apprentissage. Dès qu'on rentre dans un environnement numérique, on laisse des traces. Alors, c'est, par exemple, je réalise une activité. Si j'ai réalisé mon activité, il va y avoir un résultat. On va savoir, par exemple, si on a 80% de bonnes réponses au QCM. Pour l'équipe pédagogique, elle sait que l'apprenant a fait son activité. Si l'apprenant n'a pas fait son activité, ça va être aidant pour le tutorat. On peut revenir vers l'apprenant en disant, dis donc, on a vu que tu n'as pas fait ton activité. Est-ce que tu es en difficulté? Pourquoi tu n'as pas fait ton activité? Alors, sur la présence, c'est ça. La distance, c'est difficile à définir, la distance. Mais en même temps, toutes nos vies sont faites de distance. Là, on est bien ensemble, on est présent, on n'est pas unis au sens physique du terme, etc. Il y a bien une distance entre nous. Donc il faut arrêter de se dire qu'en présentiel, il n'y a pas de distance. Il y a toujours une distance. Par contre, comment caractériser cette distance? C'est tout ce qu'on appelle finalement la pédagogie. Et c'est ça pour moi qui est très important. Est-ce que c'est d'abord la technique ou est-ce que c'est d'abord la pédagogie qu'il va falloir mettre en évidence dans les dispositifs de formation? Alors, on a tendance à dire la technique d'abord. Moi, je dirais non, la pédagogie d'abord. Alors, ensuite, on va choisir la technique qui va bien, justement, en fonction du public, et donc pour pouvoir réduire cette distance et aller au mieux en fonction du besoin des apprenants.
Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour aujourd'hui là, des questions autour de l'EAD et de la FOAD, mais d'un point de vue pratico-pratique, ingénierie pédagogique, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres notions que tu voudrais aborder avant de parler recherche et puis évolution de la recherche sur ces sujets?
Il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. Je pense par exemple à l'apprentissage à la mobilité, hein, le mobile learning, donc l'idée de pouvoir apprendre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On voit ce type de communication sur la formation ouverte et ou à distance. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre dans la mobilité? Bon, alors ça, c'est des questions qui restent en suspens. Moi, je ne crois pas qu'on puisse apprendre partout et en tout temps. Il y a bien la question de la concentration qui reste un élément essentiel à tout apprentissage. Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir approfondir. Oui, on peut apprendre avec le téléphone portable, et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Si on va dans une logique mondiale des apprentissages, moi j'interviens beaucoup dans les pays africains, on voit à quel point le téléphone va faciliter l'apprentissage. Je prends un exemple qui m'avait été donné au Cameroun. Une femme qui va au champ va pouvoir apprendre à lire ou à écrire avec son téléphone portable. Voilà, donc ça ouvre des possibilités énormes. Après, il ne faut pas non plus réduire la FOAD à pouvoir faire n'importe quoi. On voit bien qu'il faut une organisation. On parle d'ingénierie. Ce terme d'ingénierie, il est important. Ça veut dire qu'il y a bien une exigence liée à tout ce qui est conception en ligne et qu'on a l'habitude de dire c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. En fait, c'est pas si simple que ça.
C'est quoi l'ingénierie et c'est quoi un ingénieur pédagogique? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? On parle beaucoup de scénarisation. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus? Nous dire un peu plus ce que c'est que la scénarisation pédagogique, par exemple?
Oui. Alors, là aussi, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que l'ingénierie pédagogique, elle est en construction, en tout cas dans le champ du numérique. Bien sûr, il y a toujours eu de l'ingénierie pédagogique, mais avec le numérique, ça fait bouger la donne. Et là, il faut des spécialistes qui soient formés sur ces questions. L'utilisation des plateformes, l'utilisation des applications, la dimension du conseil pour l'ingénierie pédagogique est aussi un élément essentiel. Or, les diplômes qui forment les ingénieurs pédagogiques multimédia sont seulement en train d'arriver aujourd'hui. Donc c'est un métier en émergence. Si vous regardez la revue Distance et Médiation, il y a eu quelques numéros récents sur ce sujet. Mais il y a encore 10 ans, on ne parlait pas d'ingénieur pédagogique numérique, très peu en tout cas. Donc c'est un champ en voie de professionnalisation et justement ça démontre à quel point il faut être exigeant sur la nécessité d'avoir des personnes formées pour accompagner les dispositifs numériques. Alors l'ingénierie, en quelques mots, c'est 5 processus qu'il faut arriver à mettre en place. L'analyse des besoins, la conception des ressources, l'instrumentation. Alors l'instrumentation, c'est justement les choix technologiques qui vont être faits pour mettre en place le dispositif de formation. La réalisation du contenu. Et là, il faut savoir médiatiser, il faut connaître les chaînes graphiques, etc. Bon. Et l'évaluation. Voilà, donc on a 5 processus. À l'Université de Rouen, on a l'habitude de parler d'ingénierie avec l'acronyme ACRE. Voilà. La différence avec l'ingénierie pédagogique numérique, c'est qu'en plus l'instrumentation qui prend une place évidemment très importante. Voilà. Donc on a des profils un peu atypiques, des personnes qui sont à l'aise avec la communication, qui sont à l'aise avec la technique, qui sont à l'aise avec la pédagogie. Et on voit bien que c'est des personnes qui sont très recherchées actuellement. Il y a plus d'offres que de candidats.
Très bien. Je crois qu'il y a une notion qu'on n'a pas beaucoup exploitée à travers les dispositifs EAD et la FOAD, c'est la communauté d'apprentissage. Tu en as parlé un petit peu à travers les tuteurs et autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette communauté d'apprentissage et les environnements capacitants dont tu as défini un petit peu?
Alors, la communauté d'apprentissage, c'est un grand mot, mais moi, ça m'a beaucoup marqué de voir qu'il y a un élément qui est le plus difficile à rendre présent dans les dispositifs en ligne. C'est la socialisation. Je prends un exemple concret. Donc je suis responsable d'un master à distance et pendant les confinements, je leur ai demandé ce qu'on pouvait faire pour eux. Ben, ce qu'ils m'ont demandé, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ils m'ont demandé une machine à café virtuelle. Voilà, machine à café virtuelle. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais inventer? Bon, finalement, on a mis en place une classe virtuelle ouverte en permanence, où ils pouvaient se retrouver autour d'un café et dans laquelle les enseignants étaient aussi invités à passer avec leur café quand ils voulaient. La seule consigne, c'était que dans cette machine à café virtuelle, on pouvait parler de tout sauf de la formation. Voilà, alors ça montre que la communauté, elle est basée aussi sur des relations humaines, des relations individuelles. Et l'un des éléments qu'on découvre beaucoup dans la formation à distance et qui nous étonne, c'est que quelquefois, on connaît mieux les prénoms et les noms de nos étudiants à distance que de nos étudiants en présence. Alors, c'est pour montrer qu'on peut imaginer qu'un jour, il n'y aura plus de profs parce qu'on sera remplacé par des robots ou des dispositifs virtuels en ligne. Non, c'est l'humain qui compte. Alors, l'humain, pas que équipe pédagogique, mais l'humain aussi, chaque étudiant, apprenant, qui constitue une formation. Donc, la communauté d'apprentissage, il y a ce qu'on voit, qui est dans la dimension institutionnelle, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, qui sort du cadre et qui est tout aussi important. Alors on sait par exemple aujourd'hui que l'un des premiers réflexes des étudiants, c'est de créer un groupe. Alors avant il y avait les groupes Facebook, aujourd'hui il y a les groupes WhatsApp. Voilà. Donc c'est se sentir entouré, aidé, et puis là aussi pouvoir solliciter quelqu'un, quel que soit le moment de la semaine, y compris à des heures tardives. Voilà. Donc la communauté d'apprentissage, c'est un élément très porté, on va dire, par les réseaux sociaux.
Et est-ce qu'elle se limite à la simple formation, cette communauté d'apprentissage?
Ah non, elle va aussi bien au-delà, puisque on découvre aussi qu'elle perdure après la formation. C'est-à-dire que les liens qui sont tissés vont devenir non plus des liens d'étudiants, mais des liens professionnels. Donc en tant que professionnels, quand ils ont aussi un souci pour solutionner telle ou telle chose, ils vont aller solliciter le réseau. Voilà, ça c'est un élément intéressant. Alors les environnements capacitants, c'est autre chose. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est cette question que j'ai appelée tout à l'heure la conversion des ressources. Tout ce qu'on met en place dans les dispositifs en ligne ou à distance, hein, moi je parle de plus en plus de dispositifs en ligne parce que pour moi la notion de distance, c'est plus celle qu'il faut garder. Voilà, donc peut-être les choses vont se confirmer, mais qu'est-ce que c'est que la distance aujourd'hui, hein? Franchement, quelquefois on est plus présent à distance qu'en présence. Donc, mais c'est la conversion des ressources du dispositif qui et la capacité des apprenants à se saisir de ces ressources. Autrement dit, on parle aujourd'hui beaucoup de pouvoir d'agir. Alors, j'aime pas trop cette notion parce que ça renvoie à une approche managériale. Ça approche beaucoup, souvent on associe ça au monde libéral. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis vraiment acteur de ma formation et grâce à ma formation, je vais pouvoir me développer. Alors, plutôt que de parler de pouvoir d'agir, parlons de développement. Et les environnements capacitants, pour moi, c'est des dispositifs dans lesquels les apprenants vont vraiment se développer. Voilà. Et donc, tout ce qu'on met en place doit servir à ça. Il ne faut pas oublier, le facteur humain là-dedans, encore une fois. C'est-à-dire, tout ramener à la formation ou à la professionnalisation, ce n'est pas bon. Faut voir aussi l'apprenant en tant que personne et le développement de cette personne à partir de ce qu'on va mettre en place ensemble.
Ok. Est-ce que tu as des activités concrètes à nous donner pour illustrer ce...
Alors, moi, je m'inspire beaucoup du domaine de la formation des adultes. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que d'un côté, quelquefois, il y a la formation des adultes et puis, par exemple, à l'université, où sont les adultes ? Voilà. Donc, on connaît les 7 lois de la formation des adultes et je trouve que les dispositifs de formation doivent nous ramener à ces questions de qu'est-ce qui fonctionne finalement en formation des adultes. Donc, j'ai beaucoup parlé d'action, mettre en action l'apprenant dans le dispositif de formation. Alors, il y a plein de manières de mettre en action l'apprenant. Ça peut être tout simplement, mais ça ne leur plaît pas beaucoup, mais par exemple lire un texte, ou lire une ressource, ou aller consulter une vidéo pour en faire quelque chose. Alors, on n'est plus passif, on doit produire sur les ressources qui ont été mises à disposition. Ben, ça change beaucoup la donne. Voilà. Donc, être acteur de ces apprentissages, c'est concrètement passer par une autre manière d'enseigner. Du coup, j'ai oublié ta question.
C'était des exemples concrets. Mais...
Voilà, alors les exemples, c'est beaucoup aujourd'hui le travail collaboratif dont je parlais tout à l'heure. Mettre en équipe sur des études de cas, sur des présentations de travaux, quels qu'ils soient, sur la réalisation d'évaluations, mais qui ne soient plus individuelles, mais faites par plusieurs apprenants. Voilà, ça prend la forme de séminaire, ça prend la forme d'un rendu, par exemple une réponse à appel d'offres, ça peut prendre plein de formes. Ça change complètement la donne. Et c'est très attendu par les étudiants, parce que là, ils s'y retrouvent. Voilà, ils sortent de leur isolement, ils apprennent des autres, surtout si on a un public très hétérogène. Et c'est vrai que dans l'information à distance, quelquefois, le public, il est vraiment très diversifié, quoi. Donc, le public est une richesse avec sa diversité et ça aussi, on en fait quelque chose.
Ok. Et si on aborde maintenant les questions de recherche sur l'EAD, sur la FOAD, l'enseignement à distance, aujourd'hui, y a-t-il des recherches cruciales à connaître si on veut parler de ces concepts et ces notions-là ?
Alors, il y a beaucoup de recherches hein, dans le champ. Je pense en premier lieu, comme ça, spontanément, par exemple, aux travaux de Daniel Perraya, hein, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'hybridation, par exemple. Mais la FOAD, on l'a vu tout à l'heure, ça change très vite. Et donc, il y a eu toute une période où les travaux ont porté, là, dernièrement, sur le MOOC. Alors, moins sur les MOOC peut-être aujourd'hui. On parle de comodalité plutôt que d'hybridation. Alors moi, ce que je voudrais souligner, c'est que le vocabulaire, il change à une vitesse grand V. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le vocabulaire ? Rien que ça, déjà, c'est pas mal. Et puis, il y a un phénomène, à mon avis, dont on va seulement percevoir les effets là maintenant, et les travaux sont en cours. C'est encore une fois la question des confinements qui ont lieu sur toute la planète. Les gens ont été contraints à utiliser le numérique. Ils ont été contraints dans des dispositifs qui n'étaient pas pensés. Ils ont été, les étudiants en général, confrontés quelquefois à de la formation à distance, mais faite un peu n'importe comment. Je me rappelle très bien, par exemple, la notion de rentrer en mode dégradé. Voilà. Alors, si on voit la formation à distance comme un mode dégradé, évidemment, on n'a pas envie de développer la formation à distance. Sauf qu'on sait que ça correspond de plus en plus aux attentes des étudiants. Pour quelle raison? Les étudiants sont de plus en plus salariés. On a de plus en plus aussi la formation tout au long de la vie. Donc, les gens qui désirent reprendre des études alors qu'ils sont en activité professionnelle. Donc, on voit que de toute façon, ça ne peut que se développer. Par contre, aujourd'hui, on a un petit vent contraire. Le petit vent contraire, c'est de se dire, bah, si c'est ça, la formation à distance, hein, ce que j'ai vécu pendant le confinement, moi, j'y vais pas. Bon, exemple, est-ce qu'il y a des postes aujourd'hui de chercheurs sur le sujet des technologies éducatives? Ben, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a quasiment plus de postes. Voilà, en tout cas, sur ce profil-là, un peu comme si, encore une fois, tout le monde pouvait faire. Et puis, peut-être aussi, il n'y a pas besoin de travaux de recherche sur ce sujet-là. En réalité, tout est à faire, il y a tellement de choses à découvrir, que ce soit au niveau de l'école ou de la formation des adultes. Voilà.
Okay.
Donc, il y a un champ énorme.
Et si tu peux nous parler de tes dernières recherches, notamment sur le numérique ou d'autres choses, et peut-être aussi d'un point de vue international, tes collaborations.
Oui. Alors, deux éléments. D'abord, la recherche. Je viens de soutenir mon habilitation à diriger des recherches qui portent sur ce que j'ai appelé la distance capacitante. Voilà. Alors, plutôt que de parler d'environnement capacitant, je reviens sur cette question de la distance qui a longtemps été vécue, y compris dans les travaux de recherche, pour des publics empêchés. Voilà. Alors, l'empêché, c'était la personne qui ne pouvait pas aller à l'école, la personne malade, la personne handicapée, la personne emprisonnée. Alors on voit tout de suite ce que ça génère comme effet quand on parle de formation à distance. Aujourd'hui, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, la formation à distance, c'est plus du tout ça. C'est pour tout le monde, et heureusement que ça existe. Donc moi, j'essaye de voir l'effet opposé, c'est-à-dire la distance qui permet, justement, qui permet de reprendre des études, alors qu'on ne pourrait absolument pas reprendre des études. La distance comme étant l'ouverture d'un champ des possibles. Voilà, donc mes travaux portent là-dessus actuellement. Et du point de vue de terrain, je trouve aussi qu'il y a des très très belles choses qui sont en train de se passer dans les pays africains, j'en parlais tout à l'heure. Donc on a accompagné pendant 3 ans, par exemple, l'université de Côte d'Ivoire pour le développement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Là, ça c'est du très concret dans le développement d'une offre licence. Et ça a été extraordinaire puisque ça a démarré en 2019. Là-bas aussi, confinement dès 2020, et l'équipe qu'on avait commencé à former a pu former les collègues sur place pour assurer la continuité des enseignements dans cette université. Au bout de 3 ans, alors qu'on a vécu quand même 2 années un peu exceptionnelles, ils ont réussi à développer une offre en licence et en master avec un développement de l'IFOAD qui correspond véritablement à un besoin du terrain. Alors ça change tout l'organisation de l'université. L'intégration de la FOAD, ça questionne d'abord, c'est vrai, le développement de la formation continue. Donc ils ont favorisé, enfin la FOAD a permis le développement de la formation continue dans cette université par exemple. Voilà. Mais le débat est ouvert par exemple avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un primo bachelier peut suivre des études à distance? Pour l'instant, par exemple, le ministère ivoirien dit non, pas de néo-bachelier pour la FOAD. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser les parents. Et moi, je le dis à chaque rentrée, un diplôme à distance doit valoir un diplôme en présentiel. Alors, c'est la question de la qualité des dispositifs aussi qu'il nous faut interroger aujourd'hui.
Ok. Alors là, on va sortir un peu du contexte, mais moi, je suis passionné. Si, d'un point de vue on va dire organisationnel et politique, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour encourager cette formation à distance? Qu'est-ce qui est à penser aussi d'un point de vue administratif et structurant? Les retiseront s'ils veulent ou pas.
La FOAD, elle est souvent composée à l'aide de 3 types d'acteurs qui, normalement, travaillent peu ensemble. Alors, de façon très caricaturale, mais c'est souvent ce qui est redonné comme exemple. Bon, il y a ce qu'on appelle le pédagogue, hein, donc l'enseignant, le formateur, ok. Mais il dépend beaucoup de l'administration. L'administration qui va faire connaître l'offre, qui va favoriser l'inscription et l'accès à la formation. Parce qu'il y a quand même souvent un code d'accès pour pouvoir intégrer tel ou tel dispositif. Donc l'administration va être appelée aussi à exercer un nouveau métier, ou en tout cas à accueillir un nouveau public. Donc là, il y a une transformation de la partie, par exemple, scolarité, accueil, suivi de l'enseignement, sur lequel il va falloir former les personnes. Et la troisième catégorie d'acteurs, évidemment, c'est tous les techniciens. Alors, qui vont, pour moi, de l'informaticien classique, à l'ingénieur pédagogique dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, la DSI, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, le bon dispositif de FOAD, c'est celui dans lequel on va réussir à travailler ensemble et faire travailler ensemble des personnes qui, normalement, ne travaillent pas forcément ensemble. Voilà. Donc sur la partie technique aussi, ça va bouger. Et un exemple concret, c'est que, par exemple, la mesure des services enseignement, la rémunération, tout va devoir être pensé, que ce soit sur la partie pédagogique, administrative ou technique.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux parler, discuter?
Non, bravo à l'Université de Tours et au programme AC13 pour ce travail de vulgarisation finalement de ce que c'est que la formation à distance et le numérique en général. Donc, pleine réussite à ce programme.
Merci également.
Merci, au revoir.